Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement est prêt à soutenir l'accord trouvé entre le ministre de la Santé et les syndicats des médecins à certaines conditions. La République tchèque veut devenir membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et puis enfin en basket, Anna Horáková a été élue meilleure joueuse européenne 2010 et Jan Veselý, meilleur espoir européen. Le gouvernement est prêt à soutenir l'accord ou mémorandum trouvé lundi entre le ministre de la Santé, Leo Scheger, et les représentants des médecins hospitaliers mécontents de leurs conditions salariales. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Premier ministre, Petr Nečas. Selon ce dernier, la seule condition est que l'association syndicale des médecins mette un terme à son mouvement de protestation et appelle les quelques 3800 médecins à retirer leur démission remise en fin d'année dernière dans le cadre de l'initiative « Merci, on s'en va ». Le chef du gouvernement a précisé que les 2 milliards de couronnes supplémentaires allouées cette année pour financer l'augmentation des salaires des médecins proviendraient de la réforme du système de santé, aucune profession ne pouvant, selon lui, espérer une hausse des salaires au prix d'une augmentation du déficit du budget de l'État. De leur côté, les syndicats des médecins ont approuvé mercredi soir le mémorandum qui leur a été proposé par le ministre de la Santé lundi donc. Ce mémorandum, fruit d'un compromis entre le ministère et les représentants des syndicats, doit empêcher le départ d'environ 20% des médecins exerçant dans les hôpitaux publics du pays. Selon ce document, les médecins obtiendront une augmentation de leur salaire comprise entre 5 000 et 8 000 couronnes à partir du mois de mars. En échange, ceux-ci s'engagent à retirer leur démission. La République tchèque entend devenir membre cette année du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le responsable du département en charge des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères a indiqué mercredi que Prague souhaitait obtenir une des deux places dans le groupe de l'Europe de l'Est. La Géorgie et la Roumanie sont les deux autres pays également candidats. La République tchèque avait déjà manifesté son intérêt il y a 3 ans de cela, mais le gouvernement avait alors préféré ne pas concurrencer la candidature de la Slovaquie, qui était finalement devenue un des 37 pays membres du Conseil. L'élection des nouveaux pays membres, qui le resteront jusqu'en 2014, se tiendra en mai prochain à New York. Le respect des droits de l'homme, le soutien à la démocratie et l'aide à la transition pour les pays ayant connu un régime totalitaire font partie depuis plusieurs années des priorités de la politique étrangère tchèque. Le gouvernement a nommé mercredi la juriste Monika Šimunková, nouvelle chargée des droits de l'homme et des minorités ethniques. Monika Šimunková se spécialise dans la protection des droits de l'enfant. Elle a notamment lancé au sein de la fondation Notre Enfant une ligne téléphonique de secours qui donne des informations et des conseils dans ce domaine. Le poste de chargée des droits de l'homme était inoccupé depuis la mi-septembre. Le ministre de l'époque ayant alors été démis de ses fonctions, le chargé des droits de l'homme préside également le conseil du gouvernement en charge des affaires de la communauté rome. Le gouvernement, toujours lui, a adopté mercredi le projet d'accord relatif à l'échange d'informations avec les paradis fiscaux que sont les îles de Guernesey et de Man. La République tchèque aura ainsi désormais la possibilité de vérifier si les entreprises tchèques paient bien leurs impôts sur leurs revenus et leurs biens dans ces paradis fiscaux. Il s'agit du premier accord du genre signé par le gouvernement tchèque. En 2009, un peu plus de 11 000 sociétés tchèques au total possédaient leur siège à l'étranger dans des pays considérés comme des paradis fiscaux, soit environ 3,5% des entreprises exerçant une activité en République tchèque. On passe au sport. Anna Horáková a été élue mercredi meilleure joueuse européenne de basket de l'année 2010 par la Fédération internationale. Sacrée vice-championne du monde de basket avec l'équipe nationale en octobre dernier, la meneuse tchèque a devancé la française Sandrine Gruda. La vainqueur a été désignée suite à un vote conjugué du public et d'un panel d'experts. C'est la première fois depuis 1996 qu'une tchèque est élue meilleure joueuse européenne. Cette semaine, un autre tchèque, Jan Veselý, qui évolue lui au Partizan de Belgrade, avait également été élu meilleur basketteur européen 2010 des moins de 21 ans. On termine avec un mot de météo. Le ciel reste très chargé jeudi, jour de la fête des Miloslava. Des chutes de neige et des averses sont prévues essentiellement dans le nord-ouest et dans la moitié est du pays. Les températures varient entre 0 et 4 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Tout de suite, retrouvez Magdalena Rozinková. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Les premiers ministres des quatre pays du groupe de Visegrad se sont rencontrés mardi à Bratislava. Nous parlerons de ce sommet ainsi que de l'histoire du groupe qui réunit en son sein depuis 20 ans la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Le directeur de l'Institut Pragois des relations internationales, Petr Drulák, sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Le seul groupe de pays partageant la même expérience communiste qui fonctionne plutôt bien. C'est ainsi que le quotidien Ledové noviny caractérise le groupe de Visegrad, connu sous l'abréviation de V4. Il s'agit en effet de quatre pays, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, qui sont réunis depuis précisément 20 ans en son sein. Mardi 15 février, les premiers ministres tchèques, hongrois et polonais se sont réunis à Bratislava à l'invitation de leur homologue slovaque Iveta Radičová pour un sommet exceptionnel marqué par le 20e anniversaire du groupe. En effet, le 15 février 1991, les présidents non pas de quatre mais de trois pays, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la Hongrie, Václav Havel, Lech Walesa et Árpád Göncz, se sont mis d'accord à Visegrád en Hongrie sur une coopération étroite sur la défense d'intérêts communs. Invitée sur le plateau de la télévision tchèque, l'historienne Eva Irmanova a rappelé ce qui avait motivé à l'époque Prague, Budapest et Varsovie à se réunir.
Il n'y avait aucune trace de nostalgie de l'Empire austro-hongrois dans la création du groupe de Visegrad. Au début des années 90, après la chute des régimes communistes et la réunification de l'Allemagne, trois pays d'Europe centrale, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne, se sont retrouvés liés par plusieurs aspects. D'abord, ils venaient de vivre une expérience similaire de la construction du socialisme. Les trois pays devaient prendre une certaine position vis-à-vis de leur passé et avaient l'intention d'intégrer les structures euro-atlantiques. Ces deux points-là, la réflexion du passé et le projet d'adhésion européenne, ont été à l'origine de la fondation du groupe de Visegrad.
La presse tchèque évoque à cette occasion les difficultés traversées au fil de ces 20 ans par le groupe de Visegrad, dues notamment aux positions réticentes des anciens premiers ministres Vladimir Mečiar et Václav Klaus à l'égard de cette coopération centro-européenne. Le quotidien Ledové noviny estime que les principaux objectifs de Visegrad ayant été atteints, le groupe cherche difficilement de nouveaux défis, une nouvelle raison d'être. Mardi dernier, à Bratislava, le premier ministre tchèque Petr Nečas et ses homologues Iveta Radičová, Viktor Orbán et Donald Tusk ont revendiqué dans une déclaration commune adressée aux autorités de Minsk la libération des prisonniers politiques biélorusses incarcérés depuis la réélection d'Alexandre Loukachenko à la tête du pays. Cet appel a été soutenu par les invités du sommet de Bratislava, la chancelière allemande Angela Merkel, le chancelier autrichien Werner Faymann et le premier ministre ukrainien Mykola Azarov. De même, le groupe V4 s'est opposé à une augmentation mondiale des prix des denrées alimentaires et des énergies. Résultat le plus important, semble-t-il, de la rencontre, la Slovaquie et la Hongrie pourraient très prochainement résoudre la question controversée de l'accès à la double citoyenneté pour les Slovaques d'origine hongroise. Toujours à propos de ce groupe de Visegrad, nous vous proposons maintenant d'écouter le point de vue du directeur de l'Institut Pragois des relations internationales, Petr Drulák, qui a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Petr Drulák, bonjour. Vous dirigez donc l'Institut des relations internationales à Prague. Cela fait 20 ans cette semaine que le groupe de Visegrad existe. Quel est le bilan qu'on peut en tirer au bout de 20 ans d'existence?
Bonjour. Je pense que le groupe de Visegrad était vraiment important au début. Au début des années 90, quand on a coordonné les politiques de trois pays, en ce temps-là, c'était encore trois pays, envers l'Union soviétique. C'était le temps quand tous les trois pays étaient encore occupés par l'armée soviétique. Et c'était cette négociation avec la Moscou qui ont donné la naissance de la groupe de Visegrad, la coordination envers l'Union soviétique. En ce qui concerne le développement après, on ne peut pas constater grand succès de coordination politique entre les trois et après quatre pays, parce que la divergence entre les intérêts fondamentaux était toujours trop grand pour pouvoir coordonner et pour pouvoir se battre pour une position unique.
On peut noter notamment alors la séparation, bien sûr, entre la République tchèque et la Slovaquie, et puis, comme vous le disiez, des intérêts qui sont diamétralement opposés, et on le voit jusqu'à aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la Slovaquie et la Hongrie, surtout en rapport avec la minorité hongroise en Slovaquie.
Oui, c'est toujours une relation très sensitive entre la Slovaquie et l'Hongrie. Mais quand même, on pourrait peut-être aussi se rappeler de la rattrapement de la Slovaquie en ce qui concerne la adhésion de la Slovaquie à l'Union européenne et à l'OTAN. Parce que dans ce temps-là, à la fin des années 90, le groupe Visegrad a aussi joué un rôle positif parce que les trois autres pays, Pologne, Hongrie et la République tchèque, ont contribué à ce rattrapement de la Slovaquie. Donc on contribuait au fait que la Slovaquie n'était pas exclue de processus de l'adhésion. Mais je voudrais encore souligner une chose qui est souvent oubliée quand on parle de la groupe de Visegrad, et c'est le fait que cette groupement politique contribue beaucoup au niveau d'administration. Parce que dans le cadre de la coopération de Visegrad, beaucoup de processus d'échange informel, d'expériences administratives ont été développés, qui contribuent à un meilleur fonctionnement des administrations des quatre pays. Donc c'est un résultat qui n'est pas tellement visible, mais qui est là quand même.
Et qui reste malgré l'adhésion de ces quatre pays maintenant à l'Union européenne. Est-ce que ça conserve une utilité? Est-ce que, par exemple, on peut y voir une certaine forme d'association de ces quatre pays pour affirmer peut-être une position commune s'ils arrivent à en trouver une au sein de l'Union européenne à Bruxelles?
Je ne pense pas qu'on pourrait s'y attendre. Parce que même les groupements qui étaient vraiment importants et influents comme Benelux ne jouent plus ce rôle. Parce que l'Union européenne, l'intégration au sein de l'Union européenne est aujourd'hui tellement forte que il n'y a pas de thème pour la coopération régionale qui était là il y a 20 ou 30 ans. Donc, je vois le rôle dans cet échange d'expériences. Et je ne m'attends pas qu'on pourrait voir une coopération ou une coordination vraiment politique.
Peter Drulac, je rappelle que vous dirigez l'Institut des Relations internationales à Prague. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
C'est l'histoire d'un choix. Un choix qui a sauvé la vie d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Un choix qui lui a permis de vivre alors que ses sœurs, elles, ont connu un destin tragique. Un choix fait par une mère qui n'est pas sans rappeler le fameux choix de Sophie dans le roman de William Styron. Cette histoire, c'est celle de Zuzana Ledererova, un destin que fait revivre Judita Matyasheva, une jeune journaliste passionnée. Anna Kubishta l'a rencontrée.
Chapitre de l'histoire.
C'est un peu par hasard que Judita Matyasheva a rencontré Zuzana Ledererova dans le cadre d'un projet organisé dans les écoles intitulé Zmezali Sousede, incitant la jeune génération à rechercher les personnes disparues dans leur proche voisinage pendant la guerre. Les élèves de l'école primaire de Velký Beranov enquêtent sur le destin d'Elena Bemova, disparue dans les camps nazis. Judita rédige un article sur la jeune femme juive dont les enfants ont retrouvé une photographie réalisée juste avant son départ en 1942. Une photographie qu'elle n'ira jamais chercher et qui, grâce au travail des enfants, a pu être restituée à sa cousine près de 70 ans après. Car en effet, Zuzana Ledererova reconnaît tout de suite dans l'article de Judita sa cousine Helena comme elle, originaire de Yerlava et dont elle découvrira le destin tragique après la guerre. Car Zuzana, elle, contrairement au reste de sa famille, entièrement décimée, a survécu par miracle, et c'est cette histoire incroyable que Yuleta souhaite faire connaître aujourd'hui.
À ma plus grande surprise, j'ai découvert qu'il en avait réchappé par un concours de circonstances. Elles étaient trois filles dans la famille. Zuzana était la cadette. Sa mère avait eu vent de la possibilité de cours sionistes pour les enfants juifs qui leur permettaient de partir en Palestine.
À cette époque-là, Zuzana a 15 ans. Sa mère décide donc de l'envoyer à Prague, alors que dans sa ville d'origine, Yerlava, l'atmosphère est délétère et les conditions de vie au quotidien pour les Juifs deviennent invivables. Yuleta Matyashova.
Au début, le sionisme était considéré en pays tchèque plutôt comme un mouvement de jeunesse, sportif, avec un accent sur la culture juive, un peu comme les Sokols en fait. Mais au vu de l'évolution de la situation en Tchécoslovaquie occupée, il a fallu beaucoup plus préparer les enfants à partir pour la Palestine. C'est un cours préparatoire de ce genre que Zuzana a fréquenté à Prague. Elle a commencé en 1939. Sa mère n'a pu envoyer qu'elle parce que le nombre de places était limité. À Prague, il y avait en tout 70 enfants de toute la République tchèque. La moitié venait des Sudètes, l'autre moitié de Prague et des environs.
Seuls les plus chanceux donc bénéficient de ces cours qui vont leur sauver la vie. L'aspect financier joue un rôle aussi. Les cours sont chers, ce qui restreint encore plus les possibilités d'y participer. Une partie de l'argent déboursé par les parents servira en effet à payer les nazis afin que ceux-ci permettent au groupe de jeunes de partir. En attendant, avant le départ pour le Danemark, les cours se déroulent près de l'ancienne gare de Tieschnov, aujourd'hui disparue. C'est le mouvement sioniste qui organise à la fois les cours et l'apprentissage pratique. En 1939, les enfants sont envoyés dans les montagnes Orletske Hore, dans un petit village.
Là, ils apprennent le travail agricole et aident les fermiers. La plupart de ces enfants venaient de la ville. C'était pour eux quelque chose de nouveau de travailler au champ. Mais la plupart ont aimé cette étape. Ils avaient entre 14 et 16 ans. C'était la condition de base pour pouvoir partir en Palestine, de même qu'une préparation au travail agricole.
La situation intérieure et internationale devient toutefois de plus en plus compliquée. En plus de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis, la guerre éclate et il est temps pour les enfants qui suivent les cours sionistes de partir. Le mouvement Youth Aliyah, qui œuvre alors pour faire sortir des juifs de l'Allemagne nazie, demande au Danemark d'accueillir des enfants. Le gouvernement finit par accepter d'en héberger environ 600 venus de toute l'Europe, dont les jeunes venus de Tchécoslovaquie. Parmi eux, Zuzana et son futur époux, Arnošt Lederer. Au Danemark, ils sont pris en charge par la Ligue féminine pour la paix et la liberté, qui répartit les enfants dans des familles. Yuleta Matyashova.
Parler de famille reste toutefois une notion très relative. En effet, d'après ce que j'ai pu lire, ou bien encore dans le cas concret de Zuzana, celle-ci a été placée dans une famille sans enfants et elle a été victime d'attouchements sexuels de la part du mari dès son arrivée. Donc cet accueil dans les familles était loin d'être idyllique dans beaucoup de cas. Zuzana, pour sa part, a demandé à être transférée dans une autre famille. Dans le cas des garçons, ils ont en général été envoyés travailler à la ferme, tandis que les filles sont restées dans les villes et aidées aux travaux ménagers des familles. Les garçons, eux, travaillaient sans honoraire, bien entendu.
Si le départ de la Tchécoslovaquie les sauve d'une mort certaine, les jeunes se retrouvent toutefois dans le rôle de main-d'œuvre pas chère au Danemark. En 1940, le pays est envahi et occupé par les armées du Troisième Reich, mais la présence des nazis est plus prudente sur place. En tout cas, la pression n'est pas aussi radicale que dans d'autres territoires occupés. Les enfants reçoivent toutefois une lettre de la Ligue féminine les enjoignant à se tenir prêts à partir à n'importe quel moment. 3-4 enfants de Tchécoslovaquie parviennent encore à partir pour la Palestine. Les autres sont envoyés dans des endroits isolés au Danemark, loin du danger que représente la ville. En 1943, la police danoise les prévient qu'ils doivent partir en Suède.
Dans le cas de Zuzana et de son futur mari Arnošt, celui-ci avait une sœur qui était au Danemark enceinte. Ils ont fui tous les trois alors que la sœur d'Arnošt était au 9e mois grâce à des bateaux de pêcheurs. Ils ont donné tout leur argent pour qu'un pêcheur les cache dans un local à poissons. Au lieu de se rendre en Suède en 30 minutes, le trajet a duré des heures car le bateau a fait tout pour éviter les patrouilles. En partant ainsi pour la Suède, ils ont perdu tout contact avec ceux qui sont considérés comme leur famille. Une dizaine de camarades issus du groupe qui ont remplacé en quelque sorte les familles qui étaient loin et dont ils n'avaient aucune nouvelle.
Après la guerre, Arnošt et Zuzana retournent en Tchécoslovaquie. Là, ils découvrent l'ampleur du massacre, tous les membres de leur famille ont disparu dans les chambres à gaz et les deux jeunes gens n'ont plus rien. Ils décident donc de retourner au Danemark où malgré tout, ils ont forgé des attaches. Le putsch communiste de 1948 les en empêchera et ils resteront en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, Judita Matiášová s'efforce de collecter tout ce qu'elle peut sur ces cours sionistes qui ont sauvé la vie de dizaines d'enfants juifs. Son objectif, écrire un livre, monter une exposition, tourner un film qui devrait paraître en DVD, mais aussi faire en sorte que Zuzana et Arnošt puissent peut-être retrouver certains de leurs amis perdus de vue dans le tourbillon de la guerre et des fuites. Judita Matiášová a également créé un site web grâce auquel elle veut faire connaître l'histoire de Zuzana et celle de tous ces jeunes, une histoire faite de courage et d'abnégation. Plus d'informations au http://sophieschoice.webgarden.cz.
Ainsi s'achève le programme de Radio Prague en langue française présenté par Magdalena Hrozinková.